Vous m'entendez, c'est bon? Bien. Ah, on est un... Bon après-midi à tous. Et puis je vous présente aussi mes meilleurs voeux parce que c'est le moment. Tiens, là, il faut éteindre. Voilà. C'est encore l'époque des voeux de santé et puis aussi de rêves de voyage, hein, pour tout le monde. Voilà. Bien, je vais vous présenter donc ce film que nous avons fait au Japon. Le Japon, ça a été le sujet de plusieurs conférences à l'UTB. Et puis, à la fin des conférences, il y a eu ce voyage organisé que nous avons fait au mois d'octobre. Un petit peu de... Oui, un peu de l'Arsène. Merci. Avant de présenter ce film, que j'ai appelé « Impression de voyage ». Pourquoi « Impression de voyage » ? Parce que lorsqu'on va découvrir un pays pendant une dizaine de jours, on revient, on n'a en fin de compte pas vu grand-chose du pays, on a eu certaines impressions, certaines choses qui marquent, hein, mais on ne peut pas dire qu'on connaît le pays, hein, bien évidemment. Alors, ça va être le film va vous montrer un petit peu ce que j'ai ressenti aussi. Voilà. Donc, avant le démarrage du film, un petit PowerPoint, si ça veut marcher. Voilà. C'est un pays, c'est une autre civilisation. Et des choses nous ont vraiment marqué, c'est la persistance des traditions. Et si ça passe. Et puis la modernité. Et ça, on le trouve partout. Et puis aussi, la gentillesse de la population, la propreté partout. Ça, c'est quelque chose qui se découvre tout de suite. Hein. On est vraiment surpris, on arrive. Lorsque vous arrivez à Roissy et que vous venez jusqu'à Paris, vous découvrez une banlieue qui est assez sale, avec des tacs partout. Là-bas, de l'aéroport jusqu'au centre de Tokyo, il y a des usines, il y a des zones industrielles, d'accord ? Mais c'est tout nickel. Il n'y a pas de tags, pas de poussière, pas de papier par terre, rien. Donc... Ce voyage, c'était de Tokyo à Kanazawa. Il était organisé donc par l'UTB et il a été du 10 au 20 octobre. Un petit rappel, simplement. Hein, la France est là, le Japon est là, donc c'est le pays du soleil levant. Et le voilà donc représenté plus en détail. C'est pas très grand. C'est donc dans l'hémisphère nord, du 45e au 25e parallèle. Une très grande étendue, un pays qui n'est pas large du tout, hein, puisqu'en gros, ça fait 100-150 km de large dans les parties les plus larges. Et par contre, ça s'étire sur 3000 km. Je baisse un petit peu. Voilà, comme ça. L'archipel fait 3300 km de long. Et à l'est de l'Asie, il est bordé par la mer du Japon à l'est et par le Pacifique à l'ouest. Ça, c'est des petits rappels rapides. Hein. Il y a quatre îles principales, Hokkaido au nord, Honshu, Shikoku, Kyushu et les îles Ryukyu. Il y a en tout 6800 îles et la principale, Honshu, représente 2/3 de la superficie du Japon. C'est un archipel volcanique qui est sur la ceinture de feu du Pacifique et qui se situe à la rencontre de 4 plaques tectoniques. Ça a des conséquences. Il y a plusieurs milliers de séismes par an. Heureusement, on ne les ressent pas tous, mais disons que les sismographes enregistrent plusieurs milliers de tremblements de terre tous les ans. Il y en a qui sont plus importants, comme celui de Kobe, où il y a au large des tsunamis, et celui qui a touché Fukushima en 2011, merci, a été très violent. Il y a 200 volcans en gros, dont 77 sont toujours actifs, surtout au nord, sur Hokkaido. Donc une activité volcanique importante et aussi de nombreuses sources chaudes, hein, où il y a les onsen. Il y a beaucoup de montagnes et très peu de plaines. 69% du territoire est couvert de forêts. Alors ça, c'est un Japon que je n'imaginais pas. Je m'imaginais plutôt un pays très peuplé partout, alors qu'en réalité, il y a beaucoup plus d'endroits non peuplés, couverts de forêts, et la population se situe surtout sur la côte est de l'île principale. Le climat, ben, il est très varié du fait de l'étirement de l'archipel, hein. En gros, ça équivaudrait à un archipel qui part de Paris et qui aille jusqu'au Caire. Donc on peut avoir un climat froid, surtout à Hokkaido, et puis des zones beaucoup plus chaudes. Ça veut marcher, voilà. Hokkaido au nord et ouest d'Honshu, c'est continental. Chaud en été, avec des hivers longs, froids et neigeux, en particulier sur la côte est, parce qu'il y a les vents qui arrivent de la Sibérie et qui refroidissent tout. Il peut y avoir d'énormes quantités de neige sur toute la côte est. Honshu, sur le centre-est et le sud, Shikoku et Kyushu, c'est un climat subtropical tempéré. Alors, tempéré l'hiver, chaud et humide l'été. Les îles Ryukyu sont en climat tropical, elles par contre. Sur la côte est de Honshu, la saison des pluies en juin et septembre, avec des typhons en été, et l'hiver est tiède et ensoleillé. Nous avons eu beaucoup de chance, hein, du 10 au 20 octobre, nous avons eu la première journée de la pluie, et après du beau temps tout le temps, et ça c'est assez exceptionnel. La chaîne de montagnes centrale qui arrête les vents froids de Sibérie, c'est pourquoi, si vous voulez, alors qu'il y a 150 à 200 km de distance entre la côte est et la côte ouest, la côte est est très froide et l'autre est quand même tempérée. La population, ben, 130 millions d'habitants en diminution. Ils s'attendent à passer à 125 millions d'habitants dans les prochaines années. Il y a 105 millions d'habitants, par contre, sur l'île de Honshu, c'est-à-dire toute la grande île centrale regroupe pratiquement toute la population du Japon. 5% du territoire construit, avec une densité moyenne de 800 habitants par kilomètre carré. Ça, c'est quand même aussi très caractéristique du Japon. Tokyo, 30 millions d'habitants, c'est la plus grande ville du monde. Maintenant, Sao Paulo est à peu près dans le même registre, mais c'est quand même une ville très très peuplée. Et puis, il y a donc toute cette frange du pays, hein, Tokyo, Nagoya, Kyoto, Osaka, Kobe, Himeji, Hiroshima. C'est quasiment des constructions sur plusieurs centaines de kilomètres sur la côte. Hein. Et on rentre de 30 kilomètres à l'intérieur des terres. Ce sont les forêts, il n'y a plus d'habitants. La langue, alors là c'est un problème quand même, c'est le japonais et ils parlent très peu un peu d'anglais. Et par contre, la signalisation dans les villes est en japonais et en anglais, ce qui permet quand même de se repérer de temps en temps. Alors la population, toujours, c'est une population vieillissante et plus grave, le taux de fécondité est de 1,25 enfants par femme. C'est très très bas. Hein. Déjà, l'Allemagne a des problèmes avec 1,50 à peu près. Là, avec 1,25, ça veut dire que les populations ne se renouvellent pas. Alors, il y a une population âgée très nombreuse et c'est eux qui vivent le plus longtemps au monde. Hein. Ils nous battent d'une année pour les femmes et d'une année pour les hommes. L'économie, là aussi je vais aller très vite, c'est la troisième économie mondiale. Elle sort lentement de la crise, hein. Il y a eu plusieurs crises, il y a eu une dépréciation du yen, et en 2013, qui était le contre-coup de Fukushima, Hein, et l'année dernière, ils ont redémarré les centrales nucléaires pour redonner de l'énergie au pays. Mais lorsqu'il y a eu donc le drame de Fukushima, ils ont arrêté toutes les centrales du pays, ce qui fait qu'il y avait beaucoup moins de production d'électricité. Comme ils sont très dépendants de l'électricité, qui n'ont pas de ressources énergétiques autres dans le pays, ben, il a fallu réduire et l'éclairage et la température. Hein, notre guide nous a dit, ben oui, après Fukushima, on a baissé la température des appartements, on a acheté des pulls parce que bon, on n'avait plus la possibilité de chauffer correctement. Le secteur tertiaire, il occupe 68% de la population active. Le secteur industriel est toujours important. Les produits japonais sont toujours largement produits et diffusés dans le monde entier. Et maintenant, ce sont les produits haut de gamme. Il est le quatrième exportateur du monde. Il était troisième, il est passé quatrième. L'Allemagne est passée devant. Le secteur agricole et la pêche, c'est un secteur très très faible. Ça représente 4% des actifs et 1,6% de la richesse nationale. C'est très très bas. Et ils ont un taux de chômage très bas qui est à moins de 5%. Il y a un taux d'emploi qui est très déséquilibré entre les hommes et les femmes. Hein. Beaucoup de femmes n'ont pas de travail ou des petits boulots. Et l'âge de la retraite est passé à 65 ans maintenant. Et ils verront à le faire évoluer si nécessaire. L'habitat, là je vais aller très vite, hein, vous le verrez aussi. Les constructions sont aux normes parasismiques parce que il y a beaucoup de tremblements de terre, hein, c'est vrai. En ville, c'est principalement des immeubles en béton. Et là aussi j'ai été surpris, je ne pensais pas que les appartements étaient si grands. Il paraît qu'il y a une moyenne d'appartements, la surface moyenne est de 65 mètres carrés, ce qui est pas mal pour les appartements. En banlieue et dans la campagne, ce sont souvent des maisons en bois, des structures bois. Et les maisons traditionnelles sont en ossature bois avec un sol en tatami, des parois en papier et des ouvertures coulissantes, hein, les portes qui coulissent. Dans les maisons, ce qui surprend, c'est les tables basses et puis on s'assoit, on se met à genoux sur des coussins à même le sol. Il n'y a pas de lit, mais il y a des futons qui sont dépliés le soir et rangés dans les placards dans la journée. Ça, c'est le couchage traditionnel. Mais l'aménagement à l'européenne se développe de plus en plus. C'est-à-dire que dans les villes, les gens vont avoir des vrais lits dans des chambres et vont vivre à l'européenne, enfin, disons, à l'occidentale. Les salles de bain sont souvent en deux pièces, l'une pour se déshabiller qui est pourvue d'un lavabo, et puis la deuxième qui est vraiment la pièce d'eau, dans laquelle il y a une douche qui est souvent par terre, et puis une baignoire qui est très profonde et qui ne sert pas à se laver, mais qui sert à se reposer dans l'eau chaude. On se nettoie et on se douche avant de rentrer dans l'eau. Les WC sont séparés et ils sont soit... ça, c'est une de leurs particularités aussi, à la turque inversée, c'est-à-dire qu'on est face au mur, et ils sont très longs, soit à l'occidentale, mais là, la firme Toto a fait des tas de gadgets électroniques qui sont diffusés partout, et c'est plus des WC, c'est des objets électroniques... extraordinaire, qui envoie des jets par devant, par derrière, à température réglable, à puissance réglable, le siège se chauffe par lui-même, enfin c'est extraordinaire, il paraît qu'il y en a même qui font l'analyse de votre pipi en même temps. Le chauffage dans les maisons, c'est souvent un chauffage électrique ou par pompe à chaleur réversible. Hein, ils n'utilisent peu le fuel pour chauffer. La cuisine japonaise, ça c'était un des grands moments du voyage aussi. Il y a trois repas dans la journée, le matin, le petit déjeuner à l'occidental ou japonais. Le midi, il y a un repas rapide. Et puis le soir, il y a un repas plus traditionnel. Alors, qu'est-ce qu'on mange ? Ben, beaucoup de poissons, du riz, des nouilles, des légumes, des algues qui sont, si vous voulez, le tout est assaisonné avec des condiments locaux. Il y a peu de viande. Et le repas s'accompagne d'une soupe à base d'algues et de bonite. Alors la bonite, c'est surprenant, c'est du poisson séché, ça a un goût très particulier, ou du miso qui est fait avec une pâte de soja et de riz fermenté. Là aussi, c'est très surprenant. Les poissons, les fruits de mer, alors on mangeait les poissons crus en sushi, ça tout le monde connaît, hein, sur le... ou en sashimi, c'est le poisson cru découpé, ça c'est très bon, et qu'on prend avec du wasabi, ou ils sont mi-cuits, c'est le tataki. Viande grillée en brochette ou sur des plaques chauffantes, des poissons, les fruits de mer, des viandes frites, etc. Hein, ou bouillies. Plat d'accompagnement, c'est souvent du tofu, c'est à base de lait de soja. Les desserts sucrés ne sont apparus qu'après la Deuxième Guerre mondiale, parce que ce n'était pas dans leur tradition. Maintenant, ils ont inclus les sucreries et gâteries dans leur menu traditionnel, mais ça n'était pas le cas avant. Et puis le midi, bah, y a un plat unique, c'est un bento. Alors, beaucoup de Japonais travaillent en dehors de chez eux et donc achètent un genre de petite boîte dans laquelle vous avez tout leur repas, tout est compris dedans. C'est pas mauvais, c'est souvent basé sur une base de riz, avec des poissons, avec diverses choses. Et on achète sa petite boîte qu'on mange au travail. Ou dans le train, on l'a vu. Voilà. Les boissons, alors le thé, le saké, chaud ou froid, qui n'a rien à voir avec le saké qu'on boit en Europe dans les restaurants chinois ou japonais, de la bière. Et puis alors, un truc qui est très curieux aussi, dans la rue, dans tous les endroits, vous avez des distributeurs à boissons réfrigérées qui sont absolument impeccables. Hein, je vous ai dit, il n'y a pas de tag, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, mais ils ne dégradent même pas le matériel urbain. C'est-à-dire que les distributeurs, vous en trouvez partout et vous pouvez obtenir des boissons partout. L'histoire, là, on va aller très très vite. Hein. Moins 10 000 avant Jésus-Christ, il y avait des tribus venues de Sibérie, de Chine et de Corée et du sud de la Polynésie qui sont venues dans les îles du Japon. En moins 300... ils font déjà de la culture du riz et ils maîtrisent l'utilisation du bronze et du fer. 5e, 6e siècle, c'est le système d'écriture chinoise et le bouddhisme qui sont importés. Et il y a un système hiérarchique qui est un peu inspiré par le système chinois. 8e siècle, c'est Nara, la capitale de l'Empire. Et en 794, la cour s'installe à Kyoto. Nara, Kyoto, c'est deux villes très proches. Et le bouddhisme cède la place au shintoïsme. Il y a un empereur, mais le shogun a une très grande importance, c'est le général. Et il y a les samouraïs qui sont des guerriers non nobles qui font régner aussi l'ordre dans le pays. 1281, il y a 100 000 Mongols qui arrivent en bateau pour envahir le Japon. Et par miracle, la flotte est coulée par un énorme typhon et qui sera appelé kamikaze ou vent divin. Ça n'a rien à voir avec ceux de 1945. 1543, c'est l'arrivée des Portugais qui apportent aussi avec eux les armes à feu et le christianisme. Au XVIIe siècle, c'est l'époque Edo, et le Japon se referme sur lui-même et revit en somme en autarcie et redéveloppe ses arts, etc. Puis y a l'ouverture à l'Occident. En 1853, les États-Unis forcent le Japon à s'ouvrir et à commercer avec l'Occident, parce qu'avant, il n'y avait quasiment pas d'échange entre les deux civilisations. 1868, c'est l'ère Meiji, la restauration du régime impérial, À cette époque, il y a une modernisation très rapide du Japon qui devient une puissance internationale très ambitieuse. Et il y a donc, comme ils étaient ambitieux, ils conquièrent un petit peu autour de chez eux. Donc il y a une guerre contre la Chine en 1895, contre la Russie en 1905. Ils annexent la Corée, Taïwan, etc. et la Mandchourie en 1931. Et puis, ben, 1941, Pearl Harbor, le Japon, allié de l'Allemagne, entre en guerre dans le Pacifique. Et tout ça se termine le 6 août 1945 à Hiroshima, par la bombe d'Hiroshima, le 9 août par celle de Nagasaki, qui font à L2 en gros 250 000 morts, et l'empereur capitule quelques jours après, le 14 août 1945. Le Japon capitule. L'empereur est maintenu sur son trône. Il y a une nouvelle constitution. Le pays est dirigé par un premier ministre élu par la Chambre. Et il y a le droit de vote pour les deux sexes. Pendant cette période, il y a eu une aide américaine importante par MacArthur. Et il retrouve une prospérité économique. L'empereur Ashito, qui est actuellement toujours sur le trône, succède à Hirohito en 1989. Alors l'empereur est vénéré, mais il n'a aucun rôle quasiment au niveau politique. Par contre, en 2009, il subit aussi la crise économique mondiale. Et puis donc le tsunami du 11 mars 2011, qui a fait 18 000 morts. Fukushima, la centrale de Fukushima, c'était une conséquence d'un tsunami, et il y a eu une vague énorme qui a recouvert toute la zone de Fukushima, faisant donc 18 000 morts. Et donc l'accident nucléaire a été dû aux conséquences de ce raz-de-marée qui a... bloquer les fonctions de refroidissement de la centrale. Donc il y a eu 215 000 personnes déplacées et c'est toujours pas fini, ça dure. 2014, il y a donc la remise en service des centrales nucléaires, mais le pays est encore en récession. Les religions, là aussi on va aller très vite. Les Japonais sont profondément animistes, ils croient en l'âme et dans toutes, si vous voulez, dans les pierres, dans tout ce qui est la nature. Et ils croient aussi dans des génies protecteurs. Le shintoïsme est un mélange d'animisme et de chamanisme et de culte des ancêtres. Et on s'en est aperçu, on a vu des pratiques religieuses. Le culte se pratique dans des sanctuaires. Les sanctuaires donc, qui sont shintoïstes ont toujours un élément important, c'est le portail, c'est le tori, c'est la porte qui permet de rentrer dans le territoire sacré. Et ça, on en voit un peu partout. Deuxième religion importante, c'est le bouddhisme, qui a été introduit en 538 et qui est toujours important. Les deux religions ne sont pas incompatibles. Donc le culte bouddhique se pratique dans les temples, alors que dans l'autre, ce sont dans des sanctuaires. Et les deux religions ne sont pas incompatibles, c'est-à-dire que les gens peuvent très bien, au début de leur vie, être shintoïstes et puis à la fin, être bouddhiques. Et puis, si l'occasion s'en présente, ils peuvent se marier aussi dans un rite chrétien. Ça ne les gêne pas. Le christianisme donc, a été introduit en 1549 par Saint François Xavier. Il a été interdit, puis réintroduit au XIXe siècle. Et le pourcentage, quand on fait le compte de tous les pratiquants, on arrive à beaucoup plus de 100%, parce que je vous dis, les religions sont très mêlées les unes dans les autres. Bon, dernière diapo, notre voyage. Donc, nous sommes arrivés à Tokyo. Tokyo, nous sommes allés ensuite jusqu'à Hiroshima, en passant ici par le mont Fuji. D'Hiroshima, on est revenu sur Osaka. Osaka à Kyoto et Nagoya et Nara, qui est à côté. Puis on est retourné sur Nagoya, où là, on a pris un car qui a traversé le pays. Donc là, toute cette partie-là, c'est une région très montagneuse. Et on est allé jusqu'à Kanazawa, sur la côte ouest. Et ensuite, nous sommes redescendus à Osaka, où nous avons pris l'avion. Voilà. Bon, on va démarrer. Voilà. Oui, je regrette, moi, c'est les films du lion. Ah, donc, tradition et modernité, hein, là, on voit le Shinkansen. Et voilà, donc, Tokyo, on commence sa visite par le quartier Shinjuku et la mairie de Tokyo. Un grand immeuble hein, de 250 mètres de haut à peu près, et qui nous permet de découvrir déjà la ville. Donc, vous voyez, ville très moderne avec beaucoup de buildings, mais pas mal de jardins. C'est pas le plus grand immeuble de la ville, hein. Il y en a de beaucoup plus haut. Là, on est toujours dans le quartier Shinjuku, donc qui est un quartier d'affaires. Cet immeuble en forme de cocon est l'école d'architecture de Tokyo. Je vais mettre un peu plus fort quand même, c'est difficile à... Et pour nous déplacer, ben, le mieux, c'était le métro. Métro classique, mais regardez la propreté partout. Ben, des couloirs blancs, pas un papier par terre. Là, nous sommes dans le quartier Shiodome, qui est un quartier nouvellement construit, où il y a plusieurs tours extraordinaires, entre autres cette tour d'en dessous, qui est de Jean Nouvel. Et donc là, nous sommes sur un trottoir qui est 10 mètres au-dessus du sol, à peu près, avec des parois vitrées. Il n'y a pas une trace de doigt dessus. Le quartier Marunouchi, qui est autour de la gare de Tokyo, qui est un quartier d'affaires aussi, et avec les grandes banques qui sont là. Alors on a été surpris, il n'y a pas énormément de voitures dans les rues et la circulation est assez fluide. Là, nous arrivons près des jardins autour de la demeure impériale. Et voilà donc les jardins du palais impérial. Le palais est fermé au public, il n'est ouvert que 2 jours par an pour des visites. Et donc ce palais, dans un style très traditionnel, avec des beaux jardins, au milieu d'une ville, avec les buildings partout. L'écueil. Et nous reprenons le métro. Alors dans le métro, énormément de galeries marchandes. Voilà donc les galeries marchandes avec beaucoup de petits cafés qui offrent les repas, donc le midi. Et nous voilà, à table, à midi. Alors on préparait la sauce là, dans laquelle nous allions tremper la viande. Voilà. Et voilà ce qu'on voit aussi dans le métro. Là, nous arrivons dans le quartier Harajuku et la rue Takeshida, qui est le grand centre où se regroupe la jeunesse tokyoïte. Et là, on peut trouver absolument tous les styles d'habillement. En particulier, ils peuvent être en poupée, voilà, dans ce genre. Ils peuvent être déguisés en cosplay, en personnages de manga ou en gothique. Tout est permis. Là, c'était la cerise sur le gâteau, hein. Là, les taxes, c'est pas des taxes qui ont été faites comme ça, ils ont été voulus, c'est sur une palissade pendant les travaux, hein. Là, c'était une galerie qui s'appelait des Infesta, où il y avait c'est une maison avec des pièces, et dans chaque pièce, il y a un créateur qui s'installe et qui vend ses réalisations. À une belle gothique. Et là, à quelques dizaines de mètres, on arrive sur l'avenue Omote Santo, qui est l'équivalent des Champs-Élysées un petit peu en France. C'est l'avenue où il y a toutes les grandes marques qui sont représentées. Là, c'est le quartier Shibuya et le carrefour Shibuya, qui est un des carrefours les plus fréquentés du monde. Ashito. Ouais, avec des immeubles qui sont couverts d'écrans à LED. Hein, ça, c'était assez impressionnant à voir. Alors, c'est un quartier où il y a les boîtes de nuit, les hôtels de passe. Enfin, il y a tout ce que vous voulez là-dedans. Hein. Et voilà. Un qui se... Non, non, il se prend pour un personnage de manga. Et puis quand même, bah Dior fait sa pub. Hein. Comme quoi, on arrive aussi à vendre au Japon. Et puis le soir, nous rentrons alors dans un quartier beaucoup plus calme. Là, un petit marchand de pommes de terre bouillies qui était dans le coin. Et on arrive... un repas traditionnel. Les sushis, la viande grillée, le poisson bouilli avec le tofu. Et c'est pas toujours facile de manger. Là, nous sommes toujours dans le quartier Harajuku et c'est le sanctuaire Meiji-jiku qui est un sanctuaire dans un grand parc en pleine ville. C'est très très calme. Alors, avant de rentrer dans un sanctuaire, on commence par faire des ablutions. On se lave les mains et on se lave la bouche. Voilà. Une mariée. Comme quoi les traditions sont très fortes. Hein. Ouais. Regardez les dames en kimono. Là, sont les emas, sont des petits vœux qu'on fait et qu'on attache sur les parois pour qu'ils soient exaucés. Alors toujours, tout est propre. C'est ce jour où il pleuvait. Hein. J'ai oublié de dire, pour ceux qui étaient du voyage, le film n'est pas forcément dans l'ordre du voyage. Hein. Là, on est dans le musée Mikkeiran. C'est un musée des technologies actuelles et futures. Il y avait énormément de monde, beaucoup de jeunes, et il est vraiment fait pour les jeunes, pour qu'ils voient. Et voilà le fameux robot qui a été voir notre Premier ministre quelque temps avant nous, hein, Asimo, qui est fait par Honda, et c'est un robot qui répond aux ordres qu'on lui donne. Regardez la façon dont il agite les mains, etc. C'est extraordinaire au niveau technique.
La fascination des mains, c'est
vraiment... Oui. Et là, ça, c'est dans le grand hall du musée. Il y a un globe terrestre qui est, disons, commandé par l'intérieur et qui montre soit l'évolution du climat, soit les consommations. Là, il marquait la consommation en kilowatts. Le quartier Roppongi, qui est un quartier du centre, assez calme, avec une tour Eiffel, si on peut dire, entre guillemets, mais qui fait quand même 320 mètres de haut, elle est plus haute que la nôtre. Et il y avait un parc dans le quartier, il y avait une manifestation, un genre de kermesse qui était organisée dedans. On est allé se promener, ils ont été super sympas avec nous. Voilà. Ça, c'est une personne qui fabrique des nouilles traditionnelles. Voilà, tradition, modernité. Là, les gens étaient installés. On est en plein centre de Tokyo. Bon, et on prend le métro. En métro, il y a beaucoup de stations, mais elles sont beaucoup plus espacées que les nôtres. C'est immense. Alors là, voilà, hein, déjà, il faut comprendre. Et on arrivait au marché aux poissons. Alors on avait l'intention d'aller voir la vente à la criée, et puis ça n'a pas pu se faire parce qu'on n'a pas pu rentrer. On a pu voir les ventes des revendeurs, mais pas la vente à la criée. Ah oui, on était juste à côté. Hein. Oui. Eh ouais. Et voilà. Et donc, ce sont les seules vues de Tokyo. Maintenant, nous prenons le car et une des autoroutes urbaines. Il peut y en avoir sur 2 à 3 niveaux des autoroutes. C'est incroyable. Et ça circule très bien. Voilà. Vous voyez un petit peu l'enchevêtrement des autoroutes. Et nous arrivons au Mont Fuji, qui n'est pas loin de Tokyo, hein, c'est à moins de 200 km. Et par temps clair, on peut même le voir de Tokyo. Mais nous, il y avait un peu de brume. Nous sommes sur le lac Ashi, là, et nous allons monter sur un sommet qui nous permet de le découvrir dans toute sa splendeur. Et là aussi, nous avons eu beaucoup de chance, parce que normalement, on ne voit le Mont Fuji que 90 jours par an. Le reste du temps, il est soit dans les nuages, soit on ne voit rien du tout parce qu'il y a de la brume. Et là, on a eu une vue magnifique. Et en plus, il y avait un petit peu de neige sur le dessus. Le voilà tel qu'on se le représente, hein, avec son petit nuage en bas. Là, nous partons de Mishima en direction d'Hiroshima. Alors, on prend le Shinkansen. Donc c'est le TGV Nippon. Alors il est très propre, lui aussi bien sûr, et il a cette particularité d'avoir des sièges rotatifs. Donc ils mettent toujours les sièges dans le sens de la marche. Et regardez la politesse japonaise. On nous salue avant de quitter le compartiment. Et nous arrivons à Hiroshima où nous allons essayer une spécialité une spécialité culinaire. Voilà. Et donc on était répartis dans des petits restaurants en somme qui font pour une quinzaine de personnes et on mange les crêpes d'Hiroshima. Alors, vous avez vu un petit peu tout ce qu'on met dessus. Là, ce sont des nouilles. Ouais, voilà. Un peu de poudre de poisson. Voilà. Après, on casse un œuf. Voilà. Et ça, c'est du soja caramélisé. Et voilà, le plat est servi. Alors, on a une spatule pour le manger. Je ne sais pas s'il y en a un qui est arrivé au bout. Ça sent le lard pas cuit. la sauce de poisson et tout le reste. Alors heureusement, un petit coup de saké chaud derrière. Voilà. Hiroshima, autre point de l'histoire, le dôme de Jemaku, qui était le point central, si vous voulez, au-dessus duquel a explosé la bombe atomique. Seul bâtiment qui est resté dans cette zone. Là aussi, c'est quand même très impressionnant. Là, c'est un mémorial à une petite fille qui avait 2 ans au moment de l'explosion et qui est morte d'un cancer à l'âge de 10 ans et qui pensait être sauvée en faisant des origamis, c'est-à-dire les petits pliages de papier. Et elle faisait des grues et depuis, la tradition est perpétuée. Ça, c'est la flamme de la paix qui ne s'arrêtera que lorsqu'il n'y aura plus de bombes atomiques construites, assemblées. C'est peut-être pas encore demain la veille. Ça, c'est le musée qui est du mémorial. Voilà. Le point rouge, c'est l'endroit où a explosé la bombe. Et ça, c'est la bombe en dimension réelle. Hein. C'était très petit. Hein. Il y avait 2 x 25 kilos d'uranium. Les groupes d'enfants qui viennent visiter le mémorial. Voilà. Et nous quittons Hiroshima. À quelques kilomètres d'Hiroshima se trouve l'île de Miyajima, qui est une île sacrée. Là, nous passons, ce sont des parcs à huîtres flottants. Et nous arrivons donc à Miyajima. Comme c'est une île sacrée en entier, le torii est dans l'eau, parce qu'on passe par le torii pour entrer dans l'île. Ça, c'était une petite fête. Ils se préparaient une cérémonie pour le lendemain, donc ils étaient en train de faire de la pâte pour faire des gâteaux. Voilà, tout le monde travaille pour faire les petites pâtisseries qui seront distribuées le lendemain. Et voilà, nous sommes dans l'île. Alors, le daim est un animal sacré. Hein. Enfin, ils appellent ça les daims. Moi, je pense plutôt à un chevreuil, mais... Voilà. Voilà, donc c'est le sanctuaire Itsukushima. Alors, toujours la purification à l'entrée. Ça, c'est la salle principale. Et ils étaient en train de préparer la fête du lendemain. Donc, les prêtres sont en train d'officier. Là, ce sont des offrandes, c'est des fûts de saké qui sont offerts au temple et aux dieux. Et là, ce sont des vœux qui sont attachés pour qu'ils soient exaucés. Je ne me souviens plus du nom, ça s'appelle comment les vœux ? J'ai plus le nom en tête. Ça, c'est une scène de théâtre Nau qui est dans le temple et c'est la seule scène qui soit sur l'eau au Japon. Et donc, après avoir visité le temple, nous montons au mont Misen, qui est à 500 et quelques mètres, et qui nous permet d'avoir une vue sur la mer intérieure et au loin la ville d'Hiroshima. Là, c'est un des multiples sanctuaires qu'il y a dans toute l'île. Et voilà, sur l'observatoire, on a une vue à 360 degrés sur toute la baie. En redescendant du mont Misen, il était tard et les couleurs étaient magnifiques. Et après un bain traditionnel, nous voilà tous attablés. Devant des plats très très jolis. Là, c'est... Et certains étaient très très bons aussi. Hein, voilà. Là, le petit poêlon pour cuire. Et voilà la chambre traditionnelle. On était dans un ryokan, un hôtel traditionnel, donc avec le futon qui a été dressé pendant le repas, et puis le service à thé. La table basse. Puis ben voilà, une toilette. Alors regardez bien comment c'est fait, hein. Vous voyez, il y a des boutons partout, on peut tout commander. Et le soir, la vue sur Hiroshima et le petit port de l'île. Voilà. Le lendemain matin, au moment de reprendre le bateau, il y a tous les élèves qui prenaient le bateau pour aller dans l'île principale pour leur cours. Voilà. Et on reprend le Shinkansen en direction de Himeji et Osaka. Himeji, ville qui se situe à 100 km à peu près d'Osaka et qui a un château en bois. Qui vient d'être restauré d'ailleurs, parce que bon, bah, ça vieillit quand même pas mal. Voilà. Alors ce château s'appelle aussi le château du Héron blanc. On n'a pas vraiment vu en quoi sa forme ressemblait à un héron, mais c'est son nom. Beaucoup de touristes japonais, bien sûr. Parce qu'on était très peu de touristes européens. Voilà l'intérieur du château. Donc toute sa structure en bois. Là, c'est une autre partie du château qui sont les appartements de la princesse, qui sont tout en longueur. Hein. Il y a un immense couloir qui serpente et qui distribue toutes les pièces. Voilà la chambre de la princesse. Et puis au château Imeji, il y avait l'exposition annuelle de chrysanthèmes. Le chrysanthème, c'est un symbole du Japon et c'est la fleur symbole de l'empereur. Et donc il y a des expositions qui sont assez extraordinaires et très courues. Et nous arrivons à Osaka, dans le quartier Umeda, avec ce bâtiment assez futuriste. Alors du haut, il y a toute une esplanade circulaire qui nous permet de découvrir la ville. Hein ? Donc Osaka est au bord de la mer aussi. Regardez cette église, là on ne sait pas ce qu'elle fait là. C'était... Elle est au milieu d'un immeuble. Toute la démesure du Japon. Et puis les zones fumeurs. Parce qu'il est interdit de fumer même dans la rue au Japon. Alors il y a des endroits bien particuliers, réservés aux fumeurs. Et voilà, on circule en ville. Donc là, il y a les avenues qui sont au niveau du sol. Puis au-dessus, il y a l'autoroute. Donc là, on est dans le quartier Namba. C'est un quartier où il y a beaucoup de galeries commerciales. Les salles de jeux. Les petites ruelles. Et puis au milieu de tout ça, il y a le temple Ozenji, qui est un tout petit temple au milieu de toutes les boutiques et tout ça. C'est très curieux. C'est un endroit bien calme. Un grand moment encore. Les beignets de poulpe. Alors... ils font des espèces de boulettes dans lesquelles ils posent un petit poulpe. Voilà, on les fait cuire, on les retourne avec les baguettes. Alors, elle était contente. Et voilà les poulpes, les beignets de poulpe.
C'est chaud.
Alors, pour la petite histoire, on en a mangé un chacun, pas plus. L'intérieur de notre hôtel à Osaka, donc c'est le quartier Umeda, hein, c'est le quartier proche de la gare, quartier très moderne. Alors comme partout, il y a beaucoup de vélos qui n'ont pas de chaîne ni de cadenas, hein, ils sont là, il y a une petite sécurité, mais tout le monde peut les prendre, mais il n'y a pas de vol. C'est le Japon. Ah, le quartier de la gare. Là, l'immeuble Umeda où on était tout à l'heure. Regardez, une circulation fluide, hein, il était 7h du soir à peu près. Autre vue de la gare. Alors les trains sont décorés mais ne sont pas tagués. Et ça, ce sont les couloirs et les galeries marchandes sous la gare d'Osaka. Alors on peut faire toutes ces courses hein, là. Regardez les paires de bas. Des fois, il y a des grosses fatigues. Et voilà, là, ce sont les marchands de bento, ce sont les petits paniers repas pour manger le midi. Alors, on peut acheter ça. Ça coûte pas cher du tout. Hein. En gros, on fait un repas pour 4-5 euros, hein, maxi. Et ça, c'est un menu. C'est-à-dire que les plats sont représentés en plastique et mis en vitrine. Alors on choisit. Et nous arrivons à Kyoto, le temple Kiyomizu. Toujours l'eau pour se purifier. Alors c'est un temple qui est dédié à une divinité à 11 têtes et on la voit tous les 30 ans, je crois. Hein ? Oui, elle est exposée au public tous les 30 ans. Donc on ne l'a pas vue, hein, ce n'était pas le bon moment. Voilà. Alors là, c'est la fontaine des vœux. Et voilà le temple qui est monté sur pilotis. Alors tout un... Voilà. Le temple où on était tout à l'heure est entièrement monté sur pilotis sur la colline. Voilà la fontaine des vœux. Il y a sagesse, sa santé et...
prospérité.
Oui, sagesse et santé. Ouais, hein. C'est oui, c'est prospérité, sagesse et santé. Hein, et chaque fontaine a sa dédicace. Là, c'était un mendiant très stylé. Et donc, vous voyez, les gens circulent en habits traditionnels assez souvent, et en particulier les week-ends. Ils aiment bien s'habiller à la manière traditionnelle. Ah oui. Kyoto est une ville magnifique avec énormément de rues anciennes. Là, c'est l'entrée du pavillon d'or. Alors là, je vous montre la version sans bruit parce qu'en réalité, on était quelques centaines à regarder ça. C'était une foire pas possible. Mais avec un petit peu de musique douce, ça passe tout de suite mieux. Alors ce pavillon était entièrement recouvert de feuilles d'or et il y a un phénix au sommet. L'animal qui renaît de ses cendres. D'ailleurs, il a été brûlé il n'y a pas très longtemps. En 53, oui. Alors qu'il existait depuis plusieurs siècles. Là, c'est le château Nijo, c'est la résidence du shogun à Kyoto. Alors, une petite caractéristique de ce château Nijo, les planchers sont fixés de façon à faire du bruit, ce qui permettait au shogun d'entendre les gens arrivaient, donc d'éviter de se faire assassiner. si quelqu'un était tenté. Il entendait toujours arriver parce que les parquets font quick, 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 quick. Et donc il est placé au milieu d'un très grand jardin. Voilà, un couple habillé en costume traditionnel. Là, c'est un petit temple dans la rue. Et là, nous revenons au quartier de Gion, qui est un quartier où il y a beaucoup de maisons traditionnelles et où il y a encore des geishas. Voilà. Ça, alors là, on est en plein centre-ville. C'est vraiment très, très paisible. Il n'y a pas de voiture dans les toutes petites rues. Ah, ça, c'est vraiment l'habitat traditionnel des villes qu'on ne retrouve plus à Tokyo parce que Tokyo a été quasiment rasé pendant la guerre de 40-45. Hein, et, plus ce tremblement de terre, plus tout. Alors que Kyoto est resté quasiment dans son jus dans certains quartiers. Ça, c'est la rivière Kamo qui traverse la ville. Alors voilà, donc, le quartier. Voilà une geisha qui passe, une autre. Elle ne se montre pas, hein, elles évitent de se faire repérer. Et puis la troisième que vous allez voir, voilà, c'est dans la voiture, elle part pour une soirée. Et là, ce ne sont pas des geishas, mais c'est bien... tradition et modernité, hein. Vous avez vu, elles ont leur petit portable. Et puis nous arrivons toujours dans Kyoto, au quartier de la gare. Et là, on a eu vraiment, on a été époustouflé par le bâtiment, qui est un bâtiment d'Yoshihara, qui a été fait en 97. C'est un bâtiment extraordinaire dans sa conception. C'est le hall de gare, hein, c'est ce qui permet d'accéder après aux voies. Là, notre groupe. Alors, comme toujours, c'est impeccable. Mais en plus, une architecture futuriste extraordinaire. Alors, à l'intérieur du hall de gare, il y a une salle de spectacle. Vous voyez les gradins. Et qui sont couplés avec tout un système de LED qui permet de recomposer des paysages ou des personnages de manga, etc. Ça change en permanence. Et là, on était dans un restaurant de la gare. Tout le monde se reconnaîtra. Et nous arrivons à Nara, qui est juste à côté. Et ça, c'est le temple Todaiji, qui est un temple bouddhique. Et là aussi, il y a énormément de cerfs, enfin, s'ils appellent cerfs, qui sont gras comme des cochons, parce que tous les gens leur achètent à manger, leur donnent à manger. Ils sont énormes. Voilà le groupe. Et devant le temple. Alors le temple, c'est un temple entièrement en bois. C'est la plus grande construction en bois du monde. Et à l'intérieur, il y a un Bouddha qui fait plus de 15 mètres de haut. Vous allez le voir. Alors ces structures en bois sont assez souples pour résister aux tremblements de terre. Voilà le Bouddha. Là, c'était une cloche qui est dans le parc du temple. Alors voilà, là c'est une dame qui leur donne à manger. Elle n'arrive plus à s'en sortir. Voilà, dernière vue de ce temple. Et là, on arrive au sanctuaire Kasugateisha, qui est à côté, qui est au bout du parc, et qui est un sanctuaire taoïste. Et il y avait une cérémonie juste au moment où nous arrivons. Des milliers de personnes qui montaient au temple. Alors ils montaient des offrandes, ils montaient. Voilà, donc on va passer sous le torii. Alors ce temple est dit des 3000 lanternes. Vous voyez toutes les lanternes qui sont sur les bords. Deux fois par an, elles sont toutes allumées. Et voilà, donc toutes ces lanternes, aussi des lanternes suspendues. Alors, parallèlement à cette cérémonie, les parents présentent leurs enfants au temple. Alors là, bon, c'était un enfant à naissance, mais en général, à 3 ans et 7 ans pour les filles et à 5 ans pour les garçons. Alors ça, c'était extraordinaire, c'était pour la photo. La mère, la grand-mère, la tante, tout le monde arrivait pour remettre le truc. Et le photographe en rajoute une couche. Et voilà, on peut faire la photo. Troisième temple dans le secteur, le temple Tofuku, qui est un temple là, bouddhiste, dont il ne reste que quelques pavillons. Il y a plusieurs siècles, il y en avait une cinquantaine. Et nous quittons Kyoto. Là, nous sommes entre Nagoya et Takasawa, et c'est les monts Ida, donc les montagnes, quelques petites villes. Alors là, nous avons été surpris, il y avait un petit marché. Bon, très bien. Lorsque nous sommes ressortis du temple, le marché était enlevé. Il n'y avait pas un papier par terre. Alors ça, c'est donc Takayama, c'est le palais du shogun. Alors là, les dessins secs des jardins japonais. Et là, nous sommes à l'intérieur du palais. Là, ce sont les salles des employés, enfin de l'administration. « Ça, c'est très typique et très traditionnel, hein, de l'ameublement. Avec le foyer central de la pièce, les tatamis. Ça, c'est une lampe. Ça, c'est la cuisine. Et ça, c'est la salle de torture. Avec une présentation de ce qui se faisait. C'est pas mal non plus, hein.
C'est l'impôt, ça.
Et ça, c'est l'impôt, c'est la paille de riz qui est stockée. Et les jardins, donc, du palais du shogun. En ressortant, donc, nous passons la petite rivière. Quelques jeunes filles en tenue traditionnelle. Ça, c'est une boule de paille de riz. Hein.
Oui, qui indique que le saké est prêt.
Oui, que le saké est prêt, voilà. Et là, dans ce sanctuaire, il y a une exposition de chars qui défilent deux fois par an en ville. Traditionnellement, ils sont tirés par des hommes. Et il y a à l'intérieur des hommes qui actionnent des marionnettes. Shirakawago, c'est un petit village dans lequel les maisons sont construites en bois et recouvertes de chaume. Et la particularité, alors là on est vraiment dans les montagnes, le village quasiment est isolé du monde l'hiver par la neige. Enfin maintenant il y a l'autoroute, hein, mais il était isolé du monde et donc la population s'entraidait pour construire les maisons. Voilà, les petits chandrilles, juste à côté des maisons. Vous voyez l'intérieur de la maison avec le foyer principal. Et donc la fumée passait à travers les planchers. Des bottes en paille de riz. Là, c'est une maison traditionnelle, hein, aussi. Et vous voyez toujours le même style de décoration avec les alcôves. Et voilà là, la construction de la charpente. La charpente n'est pas clouée, elle est attachée avec des cordes. Toute la structure de la maison est attachée avec des cordes. Alors là, comme ils n'avaient rien à faire l'hiver, bah, ils pouvaient tisser. Là, c'était des feuilles de mûrier, et donc ils faisaient des tissages de soie. Là, c'est toute une collection de costumes en paille de riz. Kanazawa, donc dernière étape du voyage. Là, c'est une ancienne maison de samouraï. Vous avez là un costume de samouraï. Alors, la maison est assez petite, mais elle a un jardin qui est tout petit, mais magnifique. Voilà. Le jardin, il doit faire 200 mètres carrés à peu près. Mais il y a tous les éléments qu'il doit y avoir dans un jardin japonais. Le quartier des Geishas à Kanazawa. Et donc, nous allons visiter une maison. Alors, la maison était tellement petite, j'avais pas le droit de prendre ma caméra. Donc, j'ai fait avec l'appareil photo, ce qui fait que c'est moins bon. Mais tant pis. Ça, c'était les instruments de musique utilisés par les geishas pour distraire les personnes. Ça, c'était une maison, parce qu'il y a pas mal de mines d'or dans le secteur, et donc la maison était recouverte de feuilles d'or. Et puis, des dernières vues du voyage, le jardin Kereku, Kenrok. Alors, c'est un jardin qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Qui est extraordinaire dans sa conception et il répond tout à fait à tous les critères des jardins japonais. Alors voilà, il y a de l'entretien. Hein. Là, ils enlèvent tout ce qui est abîmé. C'est balayé. Et vous voyez, on taille les arbres pour qu'ils aient vraiment la forme voulue, même si l'arbre est très grand.
D'accord. Voilà. Ça y est, ça passe. Voilà. Bon, si vous avez des questions à poser, ça marche pas. Non. Un, deux. Si, c'est bon. Voilà. Oui, j'espère que ça vous a fait découvrir certaines facettes du Japon. Et si vous avez des questions à poser, je suis prêt à y répondre. Ou tout au moins Pierre Alliot pourra répondre, parce que lui, c'est un grand spécialiste du Japon. Voilà.
Alors, ils importent beaucoup. Je ne sais même pas ce que c'est.
Oui, l'agriculture, donc ils sont obligés d'importer beaucoup. Il y a très peu de prairies, donc quasiment pas de viande. Hein. Le poisson, c'est quand même la base de l'alimentation et l'apport de protéines. Autrement, bon, ben, la culture du riz, vous avez vu, il y a des cultures qui sont très très près des maisons, on voit des fois des chandries qui touchent vraiment l'habitation, hein, parce qu'il y a peu de plaines, hein, et donc ils font leur culture bah, où ils peuvent. 20% oui.
Ils sont obligés de maintenir une agriculture.
Oui. Et d'ailleurs, on a vu très peu de champs. Hein.
Par contre, ils essayent de tout cultiver. Et c'est pas étonnant, dès qu'on monte un petit peu, ça paraît rien, mais c'est en fait assez frais dès qu'on quitte les plaines. Et comme les plaines sont essentiellement habitées, donc à partir de là, c'est pour ça qu'on a des espèces de cultures dérogées, qu'on a des champs juste que tu disais à côté des maisons. Et puis après, dès qu'on monte un peu, il faut changer complètement
la façon de cultiver. Alors il y a du riz, mais c'est... Voilà. Et puis, 65% du territoire est recouvert de forêts. Hein. Oui, ils importent leurs produits de consommation. Entre autres, la Nouvelle-Zélande qui exporte beaucoup sur le Japon. Oui. Ils ne sont pas des montagnes très hautes, hein, puisque le sommet le plus haut, c'est le mont Fuji, il est à 3900 mètres. Hein. Mais en gros, si vous voulez, les montagnes sont à 2000, 2500 mètres maximum, mais les vallées sont très encaissées et il n'y a pas de communication entre les vallées. Et d'ailleurs, on l'a très bien vu lorsqu'on est allé de Nagoya à la côte est, à Kanazawa. L'autoroute qui traverse le pays, c'est une succession de tunnels et de ponts. Hein, on était tout le temps sur un tunnel, sous un tunnel, sur un pont, etc. Et de temps en temps, on apercevait un petit village dans un coin et une sortie. Mais
le village qu'on a vu là, il est accessible l'hiver que depuis quelques années.
Voilà, il est accessible. Pourquoi ? Parce que l'autoroute justement qui va sur la côte est passe à quelques kilomètres. Mais autrement, il n'y avait pas de possibilité de s'approvisionner. Donc, ils vivaient complètement en autarcie l'hiver.
Il y a très peu de villages.
Assez peu de villages, oui. Voilà. Ben, si, c'est industriel, mais sur juste la frange est, hein, c'est-à-dire en gros toute la zone de Tokyo jusqu'à Hiroshima, hein, c'est quasiment entièrement construit et toute l'industrie est dans ce coin-là, à Osaka, il y a Toyota, il y a toutes ces grandes marques qui sont là et bon, ils ont quand même une production industrielle importante. Non, on n'en voit pas. Oui. Voilà.
Mais c'est pareil, pareil, c'est un peu anecdotique, ça représente très peu de choses par rapport à la consommation. Mais par contre, ils y tiennent énormément, et en Victoria, leurs produits laitiers sont excellents.
Mais il manque énormément de place. À Osaka, par exemple, ils ont construit un nouvel aéroport. Il est à 30 km de la ville. Ils l'ont construit dans la mer. Ils ont comblé la mer pour construire l'aéroport. Il n'y avait pas de place pour faire des
places. C'est l'aéroport le plus cher du monde. Si vous y allez, quand vous prenez une place pour là-bas, les taxes et l'aéroport sont gigantesques. Enfin, pour la bonne et simple raison qu'il faut refaire les pistes tous les 3 ans parce que ça gonde. Ils ont beau avoir une technique assez extraordinaire. Vu le nombre d'hectares que vous êtes obligé de prendre sur la mer, bon, ben, ça ne tient pas la route. Alors il y a 4 pistes et en fait, ils refont une piste pratiquement chaque année.
Voilà. Voilà. Et bon, c'est sûr que pour aller, par exemple, de Osaka centre à cet aéroport, on prend une autoroute qui est sur pilotis à peu près 20 mètres du sol, et on est constamment en l'air. Et on traverse toute la zone industrielle qui est immense. Voilà. Alors, ils utilisent pas mal de transports en commun, du vélo, oui, mais transports en commun. Donc, le métro à Tokyo est vraiment très, très bien fait, très répandu. Il y a énormément de rames. Par contre, par rapport à celui de Paris, les stations sont beaucoup plus éloignées. Hein, à Paris, quasiment, il y a 500 mètres entre deux stations. Là, il y a plusieurs kilomètres. Mais la ville est beaucoup plus grande. Oui. Voilà.
Et là maintenant, on va
voilà.
Et pour ce qui est des voitures, il y en a relativement peu dans les villes, parce que si vous êtes à Tokyo, dans les très grandes villes, vous ne pouvez pas avoir une voiture si vous disposez d'un garage. Si vous avez votre garage, vous ne pouvez pas le faire dispenser. Donc, par contre, c'est forcément.
Voilà.
Parce qu'il y a le prix du
mètre carré du garage. Oui. Une chose très particulière aussi sur Tokyo, il n'y a pas de nom de rue et il n'y a pas de numéro. C'est très commode pour se déplacer.
Ouais.
Voilà. Voilà. Oui, avec les taxis. Alors, une particularité aussi des taxis sont des voitures type berline classique et la porte arrière s'ouvre automatiquement. Le taxi longe le trottoir, la porte s'ouvre, vous rentrez. Alors en général, il y a plein de petites dentelles et de trucs comme ça dedans, et la porte se referme automatiquement. Et le chauffeur est en gants blancs, bien sûr. Et alors, pas trop, il y a moins de pollution qu'à Paris. Il y a moins de pollution. Alors, ils ont beaucoup moins de véhicules. Je vous ai dit, le chauffage, c'est un chauffage principalement électrique. Donc, tout ça, ça contribue à faire baisser. Et puis, c'est au bord de la mer. Donc, les vents... la ville, non, est pas polluée. C'est pas sale. C'est très surprenant hein, de voir une ville... Ah oui, la circulation. Même Osaka, c'est la ville, enfin pour moi, j'ai ressenti comme la ville la plus oppressante, surtout dans le quartier de la gare. Il y a des immeubles partout, c'est sur plusieurs étages. Oui, c'est un peu Manhattan, mais peut-être en pire. Bien, je vous remercie.
si vous désirez le DVD, ben vous donnez votre nom à Pierre en sortant.
Muriel, peut-être.
Ou Muriel au secrétariat de l'UTB.
Moi, j'ai frais, puis j'ai pas ça. Thank you.